Marc 2, 18. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ?» Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu, et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là ? » Il leur répondit. N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. À l'époque du grand prêtre Abiathar, il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Il en a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il attendit. Et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui, car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna alors 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donnait le nom de Boarganès, ce qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélie, et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Jésus alla à la maison et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Il disait en effet, « Il est devenu fou !» Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, « Il est sous l'emprise de Béelzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est souvent l'emprise d'un esprit mauvais. La mère et les frères de Jésus arrivèrent, ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils te cherchent !» Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à garder ce texte ouvert devant vous. En lisant cette partie de l'évangile de Marc, et nous avons lu un long passage, on pourrait avoir l'impression que Marc il nous livre une série d'épisodes sur tout un tas de sujets différents. Là, on parle du jeûne. Là, on parle de ce qu'on peut faire et ne pas faire le jour du sabbat. Là, Jésus choisit 12 apôtres. Et puis, on parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça peut sembler un peu aléatoire. Ça part un peu dans tous les sens, paraît-il. Mais s'il y a un thème qui traverse ces différents épisodes, c'est... En fait, si on considère comment les gens réagissent à Jésus, au chapitre 1, c'était plutôt très positif. Mais regardez ce que les gens commencent à dire à partir du chapitre 2. Verset 7. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 16. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Verset 18. Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font? Verset 24. Pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là? Continuons de surveiller attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat et voulait ainsi pouvoir l'accuser. Marc 3, 21. Et là, c'est sa famille. Il est devenu fou. Et verset 22. Il est sous l'emprise de Béelzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse des démons. Comment savoir une opposition à Jésus? Jésus dérange les gens par ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Et cette opposition est concentrée chez les scribes et les pharisiens, parce que ce sont eux qui se croient en règle avec Dieu. Et Jésus est en train d'exposer l'état de leur cœur. Jésus remet en question leur piété, parce qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître leur péché. Jésus vient comme le Messie, en tant que Messie, et eux, ils ne sont pas prêts à se soumettre à son règne. Et nous voyons dans ce texte cette opposition de leur part, devient de plus en plus intense et de moins en moins raisonnable. Et on va suivre un peu le fil. On part d'abord d'une question sur le jeûne. En fait, il y a les deux premiers épisodes de cette opposition, on les a déjà vus. La guérison d'un paralysé. Au début du chapitre 2, on demande comment Jésus peut-il dare pardonner les péchés. Et ensuite, quand il mange avec des pêcheurs et notoires, les collecteurs d'impôts, on se dit, mais comment se fait-il que Jésus fait cela? Mais là, il y a une question, et en fait, on ne sait pas exactement qui pose cette question à Jésus. On peut lui dire que c'est une question légitime sur la pratique du jeûne. Pourquoi tes disciples ne le font pas? Ça faisait partie de la spiritualité de juive à l'époque. Les disciples de Jean-Baptiste le font, donc ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. C'est surprenant que Jésus n'enseigne pas à ses disciples, n'encourage pas ses disciples à pratiquer le jeûne. Mais Jésus, dans sa réponse, il met l'accent sur son identité. Il dit « Je suis l'époux à la fête des noces ». Et en fait, l'image est reprise des prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe et Osée. Ésaïe 62, verset 4, « Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, il parle à Israël, car ton pays sera pour lui comme une épouse. » Et Osée, il y a toute une mise en scène de cette relation entre Dieu et son peuple, comme entre un époux et une épouse. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu diras « mon époux ». Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc cette image que Jésus donne pour expliquer pourquoi c'est pas l'heure de jeûner, dit moi, oui, je suis l'époux divin. Quand je suis présent, c'est la fête. Je suis venu pour mon peuple. Ce n'est pas le moment de jeûner. Peut-être que plus tard, oui. Mes disciples jeûneront, mais pas maintenant. Et puis en avance, et là il y a une question sur le sabbat, et on voit à quelle place le sabbat occupe dans la pensée des pharisiens. Ils sont très très branchés là-dessus, et le respect du sabbat. Mais quand Dieu a donné le sabbat à son peuple, ça faisait partie de la loi de Moïse, c'était pour le bien-être de son peuple. Chaque semaine, un jour de repos, on ne travaille pas, on pose ses outils, on ne sort pas dans les champs, on respire, on se repose et on rend grâce au Créateur. Mais les pharisiens, en voulant bien faire, ont ajouté des règles supplémentaires. D'abord, ils ont défini exactement ce qui constitue du travail, donc porter une charge sur son épaule, marcher plus d'un kilomètre, faire la cuisine, ça c'est du travail. Donc ça c'est interdit le jour du sabbat. Et ils sont même allés encore plus loin. Apparemment, on a découvert que c'était interdit pour une femme de se regarder dans la glace, dans le miroir, le jour du sabbat. Vous savez pourquoi? Parce que si elle trouvait un cheveu blanc et qu'elle l'arrachait, ah, ça c'est du travail. Donc il vaut mieux éviter. Donc on voit, voilà, on parle d'une bonne loi que Dieu a donnée pour le bien de son peuple, et ça finit par devenir un tas de contraintes, un tas d'interdits. Et donc les disciples de Jésus qui traversent un champ de blé, qui frottent les épis entre les mains, qui grignotent un peu, ah, ça c'est interdit. Et quelle est la réponse de Jésus? Il met encore l'accent sur son identité. Et il prend comme précédent ce que le roi David a fait. Personne n'aurait osé contester le roi David parce que c'est le roi, c'est David, c'est le roi choisi par Dieu. Et Jésus dit, mais moi je suis le fils de l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. je suis le maître du sabbat. Jésus dit, je pense que je suis en mesure de dire ce qui constitue le respect du sabbat. Et puis on arrive à la synagogue, et l'homme avec la main paralysée, et on voit à quel point les pharisiens sont tordus dans leur esprit, parce que selon eux, même la guérison serait interdite le jour du sabbat. Guérir, c'est du travail. Donc c'est un péché. Et le texte dit que Jésus les regarde, alors dans ma version c'était un regard indigné, c'est la colère que Jésus éprouve en entendant cela. Être aussi tordu d'appeler le bien mal, ça montre une profonde méchanceté. Les pharisiens rejettent le roi au point de vouloir tuer Jésus. Et ce que Jésus dit, en fait, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Il ne dit pas, m'est-il permis moi? En fait, il veut aussi que la question se pose à eux, mais ce que vous êtes en train de faire, ça, c'est permis le jour du sabbat? Comploter pour organiser ma mort, ça c'est permis, selon vous? Alors pourquoi, quand Jésus ne fait que le bien, pourquoi les pharisiens sont-ils si opposés à lui? Jésus montre qu'il a une pleine autorité, mais les pharisiens ne veulent pas se soumettre à Jésus. Parce qu'ils ont construit une piété basée sur des règles. Ça leur permettait de se sentir bien en disant « Oui, on a fait tout ce que la loi nous demande, et même plus. Qu'est-ce qu'on est bien ?» Jésus arrive et il annonce le royaume de Dieu, basé non pas sur des règles, mais sur une relation avec lui, le roi. Une relation où on avoue ses fautes pour recevoir le pardon. Et donc, les pharisiens insistent sur les règles. Jésus invite à une relation. Les pharisiens veulent être les justes. Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs. Donc les deux approches ne font pas bon ménage. Et c'est pour cela que Jésus emploie ces deux images, celle du vieux vêtement qu'on essaie de réparer avec un morceau de tissu neuf, ça ne marche pas. Ou bien l'image du vin neuf qu'on essaie de mettre dans de vieilles outres, ça ne marche pas. On ne peut pas garder une piété de règles et de performance humaine et ajouter un peu de Jésus, ajouter un peu du royaume de Dieu, ça ne marche pas. Il faut renoncer à l'ancien et prendre le neuf. Mais les pharisiens ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pour cela qu'ils ne supportent pas Jésus. Le roi est rejeté. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, comme avertissement pour nous de ces versets? D'abord, ce qui est assez évident, c'est qu'il ne faut pas suivre les pharisiens dans leur réaction à Jésus. C'est facile pour nous de lire ces histoires et dire « Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces pharisiens ?» Mais ils ont vu toutes les preuves de la bonté, de la puissance de Jésus. Mais ils ne font que critiquer. Moi, je ne serai jamais aussi bête que ça, quand même. Quand même. Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous avez entendu parler de Jésus, si vous avez lu peut-être un peu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais vous ne voulez pas accepter qu'il a le droit de régner sur vous, je suis sûr que vous avez des raisons. Des raisons pour dire « Oui, mais bon, en fait, moi je vois les choses comme ceci, comme cela. » Peut-être que vous en êtes convaincu. Peut-être que vous dites « Mais les raisons que j'ai, ce sont des raisons légitimes. » Mais est-ce qu'il se peut que vos raisons sont aussi tordues que celles des pharisiens? Mais même ceux d'entre nous qui sont chrétiens, nous pouvons aussi nous comporter comme les pharisiens. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être chrétien? Est-ce que c'est, moi j'ai certaines valeurs, moi j'ai certains principes par lesquels je dirige ma vie. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas, et je suis assez, je me sens bien, parce que concrètement, je vois que je ne suis pas aussi mauvais que les gens autour de moi. Vous vous souvenez de la prière du pharisien dans la parabole de Jésus? Merci, merci Dieu que je ne suis pas adultère, avare, comme le reste des hommes, comme ce collecteur d'impôts. Est-ce que c'est ça pour moi être chrétien? Ou bien est-ce une vraie relation avec Jésus qui me montre régulièrement que je ne suis pas aussi bon que je ne le pensais? Une relation qui expose régulièrement le mal qui est en moi et qui me pousse à demander pardon. Suis-je prêt à renoncer à l'idée que je suis fondamentalement quelqu'un de bien? Suis-je prêt à renoncer à l'idée que je peux me débrouiller tout seul, avec ou sans Dieu? Nous ne sommes jamais très loin de l'attitude des pharisiens. Quelqu'un dit, si vous cherchez qui aujourd'hui ressemble le plus aux pharisiens, les chrétiens évangéliques, on n'est pas loin. Mais il y a un deuxième enseignement. Jésus le roi a été rejeté par certains quand il était sur terre. Aujourd'hui, Jésus est rejeté par certains, voire par beaucoup. Et on pourrait se dire, quand même, il y a pas mal de raisons pour ne pas aimer la foi chrétienne. Les chrétiens, à travers les siècles, n'ont pas toujours été la meilleure publicité pour l'Évangile. Et quand on pense aux croisades, aux guerres de religion, quand on parle des scandales d'abus sexuels, on se dit, oui, mais si seulement les gens pouvaient mettre tout cela de côté et focaliser sur Jésus et son message, oui, si vous pouvez juste faire abstraction des chrétiens et ce qu'ils ont fait depuis 2000 ans, et simplement se concentrer sur Jésus et son message, le voir tel qu'il est, avec son amour, sa puissance, sa sagesse, certainement les gens seraient attirés par Jésus. Et si seulement l'Église pouvait refléter Jésus tel qu'il est, mais les gens seraient attirés par cela et ils croiraient. Et ça pourrait devenir une espèce de culpabilité. Si l'Église va si mal, mais peut-être c'est de notre faute. Si les chrétiens se comportaient mieux, peut-être qu'ils auraient plus de succès. Mais considérons ce que nous voyons ici. Les pharisiens étaient là. Ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont entendu son enseignement, une partie. Mais ils n'ont pas cru en lui. Ils ont rejeté le roi. Jésus, qui était à l'homme exemplaire, ne pouvait pas chercher une meilleure publicité pour l'Évangile que Jésus lui-même. Et donc nous ne devons pas nous étonner quand nous rencontrons des réactions similaires aujourd'hui. Certains ne voudront pas que Jésus règne sur eux. Non pas parce qu'ils n'ont rien compris, mais parce qu'ils ont très bien compris. Le roi est rejeté. On voit cela. Comment Jésus réagit-il? Si c'était un homme politique, on se dirait, ah waouh, là il faut que je change de stratégie, là je suis en train de baisser dans les sondages, il faut que je... Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il continue tranquillement son ministère. Et son choix porte sur d'autres. Et c'est la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, les rebelles remplacés. Les rebelles remplacés. L'hostilité de Jésus monte, voit les pharisiens, ceux du parti d'Hérode qui sont prêts à le faire mourir. Mais Jésus ne s'arrête pas. De nouveau, il va à côté du lac avec ses disciples. Chapitre 3, verset 7. La foule est encore plus grande. Les gens viennent de partout pour voir Jésus. Sa popularité ne cesse d'augmenter. Et Jésus doit même prendre les précautions pour ne pas se faire écraser par la foule. Jésus n'est pas dérangé par l'opposition. Il continue. Il fait ce qu'il est venu faire. Et puis nous avons un épisode qui à première vue semble tout à fait banal. Jésus monte sur une montagne, il choisit une équipe de 12 hommes qu'il appelle apôtres. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'enseignement qui frappe. On risque de tourner la page sans mesurer la portée de ce qui vient de se passer. Parce qu'au moment où l'opposition intensifie contre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit 12 apôtres. Et Marc nous dit deux fois qu'il y avait 12. Il nous dit au verset 14, il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres. Et puis verset 16, voici les noms des 12 qu'il désigna. Les scribes et les pharisiens représentaient Israël historique, les 12 tribus, le peuple choisi par Dieu qui était censé croire en lui, mais ils ont rejeté le roi Jésus. Et Jésus dit, dans ce cas-là, je vais créer un nouveau peuple, un nouvel Israël. Voici les 12 responsables de ce nouveau peuple de Dieu. Ça y est, je les ai choisis. Ils forment le noyau, le fondement de ce nouveau peuple, le peuple du royaume. Ceux qui rejettent le roi sont mis à l'écart et d'autres prennent leur place. Et quel est le rôle des 12? Ils doivent être d'abord avec Jésus, ils doivent vivre avec lui, l'accompagner, l'observer, l'écouter, partager sa vie. C'est le petit cercle avec qui Jésus va passer le plus clair de son temps. Mais ils ne vont pas rester dans le rôle de spectateurs. Jésus va ensuite les envoyer, c'est le sens du mot apôtre, faire comme lui. Ils vont prêcher, chasser les démons, comme Jésus le fait. Face à l'opposition, Jésus multiplie son ministère en choisissant les 12. Et puis on arrive à la fin de notre texte. Jésus est de nouveau à la maison et nous avons deux mentions de sa famille. Verset 21, quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Oh, intéressant. C'est la famille de Jésus qui considère qu'il est taré et qu'il faut le mettre vite à l'hôpital psychiatrique. Et puis au verset 31, on les voit de nouveau. La mère et les frères de Jésus arrivèrent, ils sont à l'extérieur, ils veulent appeler Jésus. Même sa propre famille croit que Jésus est allé trop loin. Steve, là, il est trop... Il n'a même pas le temps de manger. Vous avez vu ça? Non, mais c'est trop. Qu'est-ce qu'on va faire de Jésus là? On va le prendre à la maison, on va l'apprendre à se calmer là. Mais c'est encore une forme d'opposition de sa propre famille. Comment Jésus réagit? Verset 34, il regarde ceux qui sont assis autour de lui et il dit, voici ma famille. Oh là 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 là, Jésus, tu tapes fort là. À l'époque, les liens familiaux, c'était encore bien plus fort qu'aujourd'hui. Jésus dit, si ma famille biologique ne croit pas en moi, c'est pas grave, j'ai une nouvelle famille. Ceux qui m'écoutent, ceux qui font la volonté de Dieu, et c'est le même principe qui revient. Ceux qui rejettent le roi sont mis à l'écart, et d'autres prennent leur place. Et au milieu de ces deux épisodes avec la famille, nous voyons peut-être l'accusation la plus absurde qui soit. Les scribes qui viennent de Jérusalem, donc ils représentent les autorités religieuses, ils ne peuvent pas nier le fait que Jésus chasse les démons. Mais ils ne veulent pas accepter que cette puissance vienne de Dieu. Pour eux, c'est impossible. Donc, quelle est leur explication? Ah, Jésus, il est possédé par Satan, et c'est par la puissance de Satan qu'il chasse les démons. Ils sont quand même allés très loin pour expliquer les choses ainsi. Et la réponse de Jésus est tranchante. D'abord, ce raisonnement est totalement absurde. Si Satan chasse ses propres démons, c'est comme un général de l'armée qui commence à tirer sur ses propres soldats. Non, dit Jésus, je suis plus fort que Satan, je l'ai lié, je suis en train de piller sa maison, je suis en train de libérer ses prisonniers. Mais Jésus dit, vous vous rendez compte? Faites attention à ce que vous dites là. Vous avez vu les œuvres que j'ai faites par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et vous dites que c'est par Satan que je fais cela. C'est par l'Esprit du mal que je fais ces choses. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train d'appeler Dieu Satan. Vous traitez l'Esprit de Dieu de l'Esprit du mal. Et Jésus dit, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à Satan ce que Dieu fait en Jésus. Parfois, les chrétiens sont terrifiés, oh, peut-être un jour, sans le savoir, je vais commettre le blasphème contre le Saint-Esprit, comme ça je ne serai jamais pardonné. Mais qui commet ce blasphème? Ceux qui, en voyant ce que fait Jésus, attribuent cela à l'esprit du mal. Et pourquoi? Il ne sera pas pardonné parce que tant qu'il reste dans ce raisonnement-là, il se coupe de toute possibilité de pardon. Jésus dit, le pardon vient par moi. Refuser de croire en moi, appeler ce que je fais les œuvres de Satan, là, dans cet état-là, il ne peut pas y avoir de pardon tant qu'il n'y a pas de repentance et de changement d'attitude. Le roi est rejeté, les rebelles sont remplacés. Alors, quelle pertinence pour nous? Le texte nous montre que l'Évangile a toujours connu de l'opposition, depuis l'époque de Jésus jusqu'à nos jours. Mais le fait que certains rejettent le roi ne pose jamais un obstacle à la croissance de l'Évangile. C'est ce qui est surprenant. L'opposition monte, mais les foules augmentent également. Jésus n'a pas changé de stratégie pour accommoder ou persuader ceux qui étaient contre lui. Non, il a choisi un peuple qui lui appartient et qui multiplie l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et dans nos efforts de communiquer l'Évangile ici à Paris, dans le 17e, ou là où on travaille, ou parmi les membres de notre famille, oui, il y aura de l'opposition. C'est sûr et certain. Tous ne seront pas favorables à notre projet de faire des disciples de Jésus. Et on sera peut-être tenté de changer de stratégie, d'adoucir le message, de ne pas vouloir gêner les gens influents qu'on aimerait avoir de notre côté. Pour aider, tiens, je ne vais pas mentionner ce que la Bible enseigne sur certains thèmes, sur le mariage, ou la sexualité, ou l'avortement, ou l'euthanasie. Mais nous devons prendre exemple sur Jésus. Rester fidèle à l'Évangile, ne pas craindre l'opposition. Même si certains rejettent Jésus, Dieu appellera ceux qu'il a choisis dans son royaume. Donc pour conclure, nous voyons Jésus le roi, puissant, souverain, opposé par ceux qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Mais l'opposition, l'hostilité, ne lui pose aucun problème. Il dit, si vous n'acceptez pas mon règne, c'est à votre perte. En fait, vous serez exclu de mon royaume à cause de ce choix. D'autres vont prendre votre place. Les chefs religieux le rejettent. Jésus choisit de nouveaux responsables. Sa famille veut l'arrêter, le mettre en hôpital psychiatrique. Jésus choisit une nouvelle famille. Jésus est le roi et ses plans vont s'accomplir. Son royaume vient et un jour sa gloire resplendira sur toute la terre.